الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، je tiens tout d'abord à remercier le frère Morjan de l'association Siratuna pour ses efforts dans la da'wa et l'accompagnement des convertis afin qu'ils apprennent correctement leur religion. Et pour avoir mis en place ce séminaire qui a pour sujet le tawhid, ses mérites et le sujet que je vais traiter aujourd'hui, bi'idhnillah, ce sera donc l'importance du tawhid, ses mérites, le tawhid de la seigneurie, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya, et le tawhid de la divinité ou de l'adoration, tawhid al-uluhiyya. Il ne fait aucun doute que l'unicité d'Allah est la chose la plus importante auquel le musulman doit se soucier de concrétiser, et la première chose à laquelle il doit appeler les autres, car c'est l'essence du message des prophètes, et c'est la chose sur laquelle toutes les religions s'accordent sans divergence, et à laquelle ont appelé tous les prophètes d'Allah. Allah dit, traduction du sens rapproché, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous » du rebelle, du tarout. Ainsi, la mission des prophètes est d'ordonner l'unicité d'Allah et de mettre en garde contre l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk. L'unicité d'Allah est donc la base fondamentale pour établir la religion, et c'est la quintessence de l'islam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque à prêcher l'unicité d'Allah, et a continué à le faire jusqu'à sa mort. De même que ses héritiers après lui, ainsi que ceux qui les ont suivis en toute vertu jusqu'au jour du jugement dernier. L'unicité d'Allah et le fait de l'unifier dans l'adoration est la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les humains. Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Ceci est une restriction de la sagesse concernant la création des djinns et des hommes, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration d'Allah ne se réalise que par son unicité. C'est pourquoi les savants ont expliqué la parole d'Allah « que pour qu'il m'adore », c'est-à-dire « que pour qu'il m'unifie ». Par conséquent, il incombe aux musulmans d'établir toute sa vie sur le tawhid, que ce soit sa prière, son sacrifice, sa vie et sa mort. Allah dit « Dis en vérité ma prière ». Mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Le tawhid est le pilier de la religion, la quintessence de la croyance, le début de la religion et sa fin, ainsi que son aspect apparent et caché. C'est sur celui-ci que les preuves ont été établies, que la religion a été bâtie. Les versets l'ont clarifié et par sa cause que les gens se sont divisés entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Et c'est le fondement qui doit être impérativement ancré dans les âmes et dans les cœurs avant même d'aborder les ordres et les interdictions et avant de rentrer dans les impositions, les prescriptions et les jugements religieux. C'est pour cela que tout le Coran parle de tawhid. Clarifie sa réalité, expose la situation des monothéistes et met en garde et met en évidence la mauvaise situation des polythéistes. Et l'opposé de l'unicité, c'est-à-dire le shirk, est le péché majeur qui n'est pas pardonné à celui qui meurt en l'ayant commis. Et le contraire du tawhid est le plus grand péché dont il ne sera jamais pardonné à celui qui meurt sur celui-ci. Allah dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. » Son opposé est la plus grande injustice, c'est-à-dire le shirk. Allah dit « Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était entièrement dédiée à l'appel à l'unicité d'Allah, et à la lutte contre le polythéisme. Il ne s'en est jamais détourné, que ce soit à la Mecque, parmi les mécréants et les polythéistes, sous la puissance des idolâtres et leur tyrannie, Il n'a jamais cessé de prêcher l'unicité d'Allah, ne s'est jamais lassé de cela, même un instant. Ni pendant son émigration vers Médine, alors que ses ennemis le poursuivaient activement, et il n'a jamais cessé de parler de l'unicité d'Allah et d'en ordonner la pratique. Il n'a jamais cessé d'en parler alors que sa situation était claire à Médine parmi ses partisans et ses aides, et il n'a pas fermé sa porte après la conquête de la Mecque. Il est resté en appelant à l'unicité d'Allah et en élevant sa bannière. Par conséquent, il est obligatoire pour chaque prédicateur et même pour chaque étudiant en sciences de suivre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il n'y a pas d'appel utile sous tous ces aspects sauf s'il est ainsi. Allah dit, « Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, et gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. » Il incombe à l'étudiant en sciences de connaître le rang du tawhid, de le mettre à sa juste valeur par rapport à ce qu'il a appris de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et appeler les gens à accorder de l'importance à l'unicité d'Allah et les inviter à aimer le tawhid. Le victorieux est béni est celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaît l'impact et le rang du tawhid, ainsi que le danger et la place du polythéisme. Et celui qui est complètement abandonné est celui qui s'écarte de ce chemin, minimise l'importance du tawhid, ne reconnaît pas sa place et rend sa compréhension et sa recherche insignifiantes pour les gens, les détournant vers d'autres choses qui ne le seront bénéfiques que si elles sont accompagnées d'un tawhid clair. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous d'étudier le tawhid de manière claire et évidente et de s'efforcer de comprendre cela. Les mérites du tawhid sont très nombreux, mais nous allons en mentionner quelques-uns. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour cela. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Deuxièmement, Allah n'accepte aucun acte sans le tawhid. Comme il a été rapporté dans le hadith Qudsi, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. » Quiconque accomplit une œuvre où il m'associe à un autre, je le délaisse, lui et son association. Troisièmement, n'accédera au paradis que le monothéiste. Comme il a été rapporté dans un hadith authentique, quiconque rencontre Allah sans rien lui avoir associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit, entrera en enfer. Et comme il a été rapporté dans un autre hadith également, certes, Allah a interdit le feu de l'enfer à celui qui dit « La ilaha illallah » et veut par cela le visage d'Allah. Quatrièmement, il est une cause de l'augmentation des bonnes actions et un moyen de faire disparaître les péchés. Comme il a été rapporté dans le hadith authentique, « Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne rien m'associer, je viendrai à toi avec autant de pardon. » Sixièmement, il est une cause de guidée et de sécurité constante. Comme Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire ici l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. » Septièmement, il est une source de tranquillité. Et huitièmement, il est un moyen pour obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus en droit de mon intercession le jour du jugement dernier, sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère. En examinant et en méditant sur les versets du Coran, les savants ont déduit et ont dit que le tawhid se divisait en trois catégories. La première catégorie, c'est le tawhid de la seigneurie, qu'on appelle le tawhid al-rububiyya. Cela consiste à attester et affirmer qu'Allah est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Ensuite, il y a Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid de la divinité ou de l'adoration. Cela consiste à unifier Allah dans l'adoration, lui vouer un culte exclusif et n'adorer personne en dehors de lui. Ensuite, il y a le Tawhid des noms et des attributs. C'est la troisième catégorie. Cela consiste à croire qu'Allah est unique dans ses noms et ses attributs et que rien ne lui ressemble dans ses noms et ses attributs. Il consiste aussi à affirmer tous les noms et attributs qu'Allah affirme pour lui-même ou par le biais de son messager. Nier les noms et attributs qu'Allah nie pour lui-même ou par le biais de son messager. Et d'autres savants ont divisé le tawhid en deux catégories et les nomment différemment. Comme la première catégorie, ils ont appelé cela le tawhid de l'affirmation et de la connaissance. Ou on peut dire le tawhid de la connaissance. Et cette catégorie comprend le tawhid de la seigneurie ainsi que le tawhid des noms et des attributs. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez, c'est-à-dire ici la connaissance, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le tawhid de la volonté et de la demande, c'est-à-dire le tawhid de la mise en pratique. Et il comprend le tawhid de l'adoration et de la divinité. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Il n'y a donc aucune contradiction entre ceux qui divisent le tawhid en deux ou trois catégories. Car les savants qui divisent le tawhid en deux catégories ont intégré le tawhid des noms et des attributs avec le tawhid de la seigneurie. Nous allons donc nous consacrer sur les deux premiers types et les deux premières catégories de tawhid, le tawhid de la seigneurie ainsi que le tawhid de la divinité. Quant à la troisième catégorie, c'est notre frère Abdurrahman, hafidhahullah, qui l'expliquera, inshallah. La première catégorie est le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'unicité dans sa seigneurie. Et il consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes et croire qu'il est l'unique créateur de tous les êtres existants. Allah dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et Allah dit, dans un autre verset, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Et il consiste aussi à dire qu'il est le maître de la royauté, le gérant de toutes les affaires de l'univers. Il accorde et dépossède, il donne la puissance et avilit, il est capable de toutes choses, il fait alterner la nuit et le jour, et donne la vie et la mort. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô Allah, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, tu retires, et tu retires le pouvoir à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu avilis qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. » Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu dispenses des biens à qui tu veux, sans compter. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a certes nié avoir un associé dans la royauté ou un assistant, tout comme il a nié avoir un associé dans la création et la pourvoyance. Allah dit, voilà la création d'Allah, montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran, qui assurerait votre subsistance si Allah cessait de vous l'accorder? Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé son unicité dans la seigneurie sur toute sa création. Allah dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah a fait en sorte que fassent partie de la sainte nature le fait d'approuver le tawhid, c'est-à-dire l'unité, dans la seigneurie. Et ceci chez toutes les créatures, sans exception. Même les polythéistes, qui ont donné un associé à Allah, approuvent l'unicité de sa seigneur, de sa seigneurie. Allah a fait en sorte que fasse partie de la sainte nature le fait d'approuver le tawhid de la seigneurie. Et ceci chez toutes les créatures sans exception. Même les polythéistes qui ont donné un associé à Allah approuvent l'unicité dans sa seigneurie. Allah dit dans le Coran, demande-leur, qui est le seigneur des sept cieux et du trône immense? Ils répondront, c'est Allah. Dis-leur, ne le craindrez-vous donc pas? Demande-leur, qui détient en sa main la royauté sur toute chose qui protège et de qui nul ne peut se protéger? Répondez si vous savez. Ils diront, Allah. Dis-leur, comment donc pouvez-vous être ainsi trompés? Ainsi, il n'y a pas de descendant connu parmi les fils d'Adam qui ait renié cette catégorie d'unicité. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi les descendants des fils d'Adam qui ont renié cette catégorie, c'est-à-dire le tawhid de la seigneurie. Au contraire, mais les cœurs sont plutôt naturellement prédisposés à reconnaître cette catégorie, c'est-à-dire l'unicité de la seigneurie. Comme l'ont dit les prophètes, Allah dit, c'est-à-dire par rapport à ce que les prophètes ont dit, y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Et le plus connu de ceux qui ont fait semblant d'ignorer et contester le Seigneur est Pharaon, Pharaon, qui en vérité était convaincu de son existence et de sa seigneurie dans le fond de son cœur. Comme Moussa alayhi salam dit, donc Allah dit dans le Coran, il dit, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Allah dit également à son sujet et celui de son peuple, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. De même, ceux qui nient l'existence du Seigneur aujourd'hui, parmi les athées et les communistes, ils ne le font qu'en apparence par orgueil, mais en réalité, dans leur fort intérieur, ils reconnaissent inévitablement que la présence de créatures implique la présence d'un créateur, et que la présence de traces implique la présence de son auteur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils, eux, les créateurs? Où ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Contemple l'univers dans son ensemble, dans ses hauteurs et ses profondeurs, avec toutes ses parties, tu le trouveras témoignant de l'existence de son Seigneur. Tu le trouveras témoignant de l'existence de son Seigneur, de son Créateur, de son Maître et de son Souverain. Renier son Créateur dans les esprits et les natures innées équivaut à renier la science. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ce que le communisme prétend aujourd'hui en niant l'existence du Seigneur n'est qu'une forme d'orgueil et d'opposition à la logique saine et aux idées fondées. Quiconque agit ainsi aura certes renié sa raison et invité les gens à se moquer de lui. Et il est important ici de mentionner une règle que les savants ont mentionnée concernant l'unicité dans la seigneurie. Les savants ont dit, l'unicité dans la seigneurie implique l'unicité dans l'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que celui qui atteste l'unicité d'Allah dans la seigneurie reconnaît qu'Allah est le seul créateur de cet univers, le seul pourvoyeur, est le seul gérant. Il doit obligatoirement affirmer qu'il est le seul qui mérite d'être adoré par toutes les formes d'adoration. Et l'homme n'est pas monothéiste uniquement en reconnaissant l'unicité dans la seigneurie. C'est-à-dire que celui qui reconnaît l'unicité dans la seigneurie, cela ne fait pas de lui un musulman et un croyant. Il doit également attester l'unicité dans l'adoration et la mettre en pratique. car les polythéistes reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus alors qu'ils reconnaissaient qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, le savant, les a créés. Allah dit également dans le Coran, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Et Allah dit également dans le Coran, dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe, la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? Et beaucoup d'autres versets qui vont dans ce sens sont présents dans le Coran. Celui donc qui prétend que l'unicité consiste à attester de la présence d'Allah ou d'admettre qu'il est le créateur et celui qui dirige l'univers et se contente uniquement de cela, c'est-à-dire qu'il se contente uniquement d'approuver et de reconnaître l'unicité dans la Seigneurie, alors sache qu'il n'a aucune connaissance de ce qu'est réellement l'unicité, qui a été l'objet de la mission des envoyés. En fait, ils se sont fixés à ce qui implique l'obligation et ont délaissé l'obligation en elle-même, ou ils se sont limités à la preuve et ont abandonné ce à quoi elle tend à prouver. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie qui est le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid de la divinité ou le tawhid dans l'adoration. Donc, l'uluhiyya, c'est l'adoration. L'unicité dans l'adoration consiste à ce que les serviteurs unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs actes, qu'ils accomplissent consistant à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'invocation, le vœu, le sacrifice, l'espoir, la peur, la confiance, le souhait, la crainte et le repentir. Cette catégorie d'unicité est l'objectif du prêche des premiers et des derniers prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du rebelle du Tarout. » Et chaque prophète a commencé à appeler son peuple en ordonnant l'unicité dans l'adoration, comme Nuh, Houd, Salih, Shu'ib, comme Allah dit dans le Coran, les concernant, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui d'autres divinités. Et Allah dit, et Ibrahim, quand il dit à son peuple, adorez Allah et craignez-le. Allah dit dans le Coran, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et la première obligation dont est tenue d'accomplir la personne responsable est d'attester qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. C'est-à-dire le fait de dire « La ilaha illallah ». Et c'est de cette manière qu'il rentre dans l'islam et de mettre cela en pratique. Et la preuve de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Sache donc qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché ». Lorsqu'une personne souhaite se convertir à l'islam, la première chose qu'il lui incombe de faire, c'est de prononcer les deux attestations de foi. C'est-à-dire, « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Il ressort de cela que l'unicité de la divinité est l'objectif principal de l'appel des prophètes, du prêche des prophètes. Et cette forme d'unicité est donc l'objectif du prêche des prophètes, car elle est le fondement sur lequel est établi l'ensemble des actes. Sans sa concrétisation, l'ensemble des actions ne sont pas valides et il en résulte le contraire qui est le shirk, l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et Allah dit, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et Allah dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Et cette forme d'unicité est le premier devoir que doit accomplir le serviteur, comme Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et vos mères. Ensuite, nous allons voir la signification de la ilaha illallah, la signification de cette attestation. Parce que, en réalité, l'unicité, c'est le tawhid al-uluhiyya, c'est la parole la ilaha illallah. Donc nous allons voir ici la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire de l'attestation de foi, des fautes commises dans celle-ci et ses piliers et ses conditions de validation. Premièrement, sa signification, c'est-à-dire il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. La ilaha illallah. C'est cela là, la signification de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Il n'y a de divinité, la ilaha, c'est le fait de renier le mérite de l'adoration pour un autre qu'Allah, quel qu'il soit, que ce soit un ange, un prophète ou autre, un arbre, une pierre ou autre. Si ce n'est Allah, illallah, c'est le fait d'attester qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Et la phrase complète a donc pour signification pas d'être adoré à juste droit si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Et le terme à juste droit ne doit pas être remplacé ici par le terme existant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire pas d'être adoré existant si ce n'est Allah. Car cela contredit ce qui est d'actualité, ce qu'on voit de nos jours. Car les êtres adorés par les gens en dehors d'Allah existent en très grand nombre. Et on le voit dans beaucoup de pays, que ce soit en Inde ou autre, ils adorent les vaches, ils adorent les pierres, ils adorent les rats, ils adorent n'importe quoi. Et cela implique donc que l'adoration de ces choses revient à l'adoration d'Allah, ce qui est complètement faux. Et ceci est le madhhab de ceux que l'on surnomme les adeptes de l'unicité de l'existence, qui font partie des plus mécréants des gens de cette terre. Et cette phrase a été également interprétée par de fausses interprétations. Parmi celles-ci, et on mentionne cela car cela est très répandu chez les gens, et auprès de certaines sectes, car ils interprètent et commentent cette l'attestation, la ilaha illallah, de cette manière. Premièrement, ils disent, point d'être adoré si ce n'est Allah. Point d'être adoré si ce n'est Allah. Et ceci est faux, car cela voudrait dire que tout ce qui est adoré, à juste droit ou non, est Allah, comme cela a été mentionné précédemment. Deuxièmement, ils disent, point de créateur si ce n'est Allah. Et ceci n'est qu'une partie de la vraie signification, mais ce n'est pas ce qui est voulu. Et ceci est en réalité, ce n'est qu'attestation de l'unicité dans la seigneurie. Et c'est une forme d'unicité qu'attestent les polythéistes. Ceci est donc insuffisant. Comme on a vu précédemment, c'est que les polythéistes disent qu'eux, ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul pourvoyeur, c'est lui le seul créateur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ensuite, ils disent, le troisième, c'est pas de juge, hakimiya, si ce n'est Allah. Et ceci est également une partie de sa signification, et c'est insuffisant. Car si une personne a pris Allah comme unique juge et a invoqué un autre que lui, ou a accompli une forme d'adoration pour un autre qu'Allah, il ne fait pas partie dans ce cas des monothéistes. Donc toutes ces interprétations sont fausses ou incomplètes. Et l'explication authentique de cette attestation chez les pieux prédécesseurs, les salafs, est « pas d'être adoré à juste droit si ce n'est Allah ». La ma'bouda bihaqqin illallah. Ensuite, il faut savoir que la ilaha illallah, cette attestation comprend deux piliers, la négation et l'affirmation, c'est-à-dire une négation et une affirmation. La négation qui est la ilaha, c'est-à-dire il n'y a de divinité. Et cela abroge l'associationnisme et toutes ses formes, et implique de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha, il n'y a de divinité. Et l'affirmation, c'est illallah, si ce n'est Allah. Et c'est le fait d'affirmer que seul Allah mérite l'adoration. Et cela implique sa mise en pratique. Et le sens de ces deux piliers a été mentionné dans de nombreux versets. Comme Allah dit dans le Coran, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Ici, quiconque mécroit aux rebelles, ceci est la signification du premier pilier. Il n'y a de divinité. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité. C'est-à-dire, ici, c'est une négation. Tandis qu'il croit en Allah, c'est l'affirmation. Et ceci est la signification du deuxième pilier, si ce n'est Allah. Ainsi que dans le verset, comme Allah dit, je désavoue, comme Ibrahim dit, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ici, je désavoue totalement ce que vous adorez, c'est la négation, à l'exception de celui qui m'a créé, c'est l'affirmation. Ensuite, l'attestation de foi nécessite sept conditions, sans lesquelles elle ne sera pas profitable à celui qui la prononce, sauf si elles sont toutes réunies. Et ces conditions sont en résumé, la science s'opposant à l'ignorance, la certitude s'opposant au doute, l'acceptation contraire, donc qui est contraire au reniement, la soumission qui est contraire à l'absence d'exécution, l'intention pure, et il y a ni la véracité qui s'oppose au shirk, la sincérité qui s'oppose au mensonge, et l'amour qui s'oppose à la haine et au mépris. Et de manière détaillée, la première condition, c'est la science. Et la science, ici, c'est la connaissance de sa signification avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, contrairement à l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Et ceux qui auront témoigné, c'est-à-dire dans le verset, ceux qui auront témoigné, c'est-à-dire qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. C'est-à-dire la ilaha illallah. En pleine connaissance de cause, c'est-à-dire que leurs cœurs savent ce que leurs langues ont attesté. S'il prononce cette attestation sans connaître son sens, elles ne lui seront d'aucune utilité, car ils n'ont pas cru au contenu de cette attestation. La deuxième condition, c'est la certitude. Celui qui prononce cette parole, c'est-à-dire « La ilaha illallah », doit être convaincu de ce qu'elle renferme, car s'il doute, elle ne lui sera d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Quant à celui qui doute, il fait partie des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, annonce la bonne nouvelle du paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur, attestant qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le cœur convaincu. Celui dont le cœur n'est pas convaincu par cette parole ne méritera pas d'entrer au paradis. La troisième condition, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qu'implique cette attestation concernant le fait de vouer l'adoration à Allah seul, ainsi que d'abandonner et de délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui prononce cette parole mais ne l'accepte pas, il sera parmi ceux dont Allah a dit à leur sujet, quand on leur disait « Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Et ceci ressemble au cas des adorateurs de tombes de nos jours, car ils disent « La ilaha illallah » mais ne délaissent pas l'adoration des tombes. De ce fait, ils ne font pas partie de ceux qui ont accepté la signification de « La ilaha illallah ». La quatrième condition, c'est la soumission. La soumission à ce qu'implique cette parole. Allah dit « Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. » Et l'anse la plus ferme dans ce verset, c'est « La ilaha illallah ». Et le sens de se soumettre son être à Allah, il se soumet à Allah en lui vouant un culte exclusif. La cinquième condition, c'est la véracité. C'est le fait de prononcer cette parole avec le cœur, en toute sincérité. Car s'il la prononce avec sa langue, sans l'approuver avec son cœur, il fait alors partie des hypocrites et des menteurs. Allah dit dans le Coran, « Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier, tandis qu'ils n'y croient pas. » Et Allah il dit ensuite, « Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. » Il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. La sixième condition, c'est la sincérité. Et c'est la purification des actes de toute impureté et de toute impureté de l'associationnisme. Et de ne pas convoiter, lorsqu'on prononce cette attestation, les plaisirs de la vie d'ici-bas et ne pas chercher l'ostentation ni la notoriété. En raison de ce qu'il a été mentionné et conformément à ce qu'il a été mentionné dans le hadith authentique de Idban, Allah a interdit au feu de brûler quiconque dit « Nulle divinité n'est digne d'adoration si ce n'est Allah », c'est-à-dire « La ilaha illallah », ne visant par là que le visage d'Allah. La septième condition, c'est l'amour. L'amour pour cette parole, pour ce qu'elle signifie, ainsi que pour ceux qui mettent en pratique ce qu'elle implique. Allah dit dans le Coran, parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont ceux qui aiment le plus Allah. Les adeptes de la ilaha illallah aiment Allah d'un amour pur, tandis que les gens du shirk l'aiment et aiment d'autres divinités avec Allah. Et ceci contredit ce qu'implique cette attestation. Donc, les implications du témoignage de la ilaha illallah, c'est le fait de délaisser toute adoration autre que celle d'Allah, peu importe ce qui est adoré, c'est-à-dire un ange, un prophète, une pierre, une vache, n'importe quoi. Ceci est sous-entendu dans la négation. Il n'y a de divinité. Et le fait d'adorer Allah seul, sans associer, ceci est sous-entendu dans l'affirmation. Si ce n'est Allah. La ilaha illallah. Beaucoup de ceux qui prononcent cette attestation agissent contrairement à ces implications. Ainsi, ils vouent l'adoration qui est due à Allah à des créatures, des tombes, des diables, des pierres et autres. Ils ont cru que l'unicité était une innovation et ont blâmé ceux qui les appellent à cela. Et ils ont incriminé ceux qui ont voué un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les annulatifs de cette attestation. Ce sont les annulatifs de l'islam. En effet, les deux attestations de foi sont celles par lesquelles une personne entre dans l'islam en les prononçant. Les prononcer signifie reconnaître leur signification et s'engager à accomplir les obligations qu'elles impliquent, y compris l'accomplissement des rites de l'islam. Si une personne ne respecte pas cet engagement, elle a rompu le pacte qu'elle a accepté en prononçant les deux attestations de foi. Les annulatifs de l'islam sont nombreux et les juristes, c'est-à-dire les fuqaha, leur ont consacré un chapitre spécifique dans les livres de jurisprudence qu'ils ont nommé le chapitre de l'apostasie. Et les plus importants de ces annulatifs sont au nombre de 10, comme cela a été mentionné par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans ses écrits. Rahimahullah ta'ala. Le premier est l'associationnisme. L'associanisme, c'est-à-dire le shirk dans l'adoration d'Allah. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et parmi ceux-là, il y a le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, comme le sacrifice qui sont faits en faveur des tombeaux ou des djinns. Deuxièmement, celui qui place des intermédiaires entre lui et Allah, les invoque et leur demande l'intercession et place sa confiance en eux. Celui-ci devient mécréant à l'unanimité des savants. Troisièmement, celui qui ne reconnaît pas la mécréance des polythéistes ou a un doute sur cela ou authentifie leur confession est lui-même mécréant. Comme celui, par exemple, qui dit que les juifs sont ses frères ou les chrétiens sont ses frères et il doute sur leur mécréance ou ne les rend pas mécréants. Quatrièmement, celui qui croit que la voix d'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète ou bien que la loi d'un autre que lui est meilleure. Comme c'est le cas pour ceux qui préfèrent la loi des diables, des tawarit, à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui préfèrent la législation, c'est-à-dire les lois humaines, à celle de l'islam. Cinquièmement, celui qui déteste une chose venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant même s'il la met en pratique. Sixièmement, celui qui se moque d'une chose de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa récompense ou de son châtiment est un mécréant. Et la preuve de cela est le verset dans lequel Allah dit « Dis est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Septièmement, la sorcellerie. Huitièmement, l'aide et le soutien des polythéistes contre les musulmans. La preuve de cela est le verset suivant. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas le peuple injuste. Neuvièmement, celui qui croit que certaines personnes peuvent sortir de la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Khadir a pu sortir de la loi de Moussa. Neuvièmement, celui qui croit que certaines personnes peuvent sortir de la loi, c'est-à-dire la sharia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Khadir a pu sortir de la loi de Moussa, est un mécréant. Dixièmement, se détourner de la religion d'Allah sans la prendre ni la pratiquer, et la preuve de cela est la parole d'Allah, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ainsi que la parole d'Allah, qui est plus injuste que celui à qui les versets sont rappelés et qui ensuite s'en détourne, nous vengerons certes des criminels. Et le cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, il n'y a pas de différence dans l'ensemble de ces annulations ou de ces annulatifs entre celui qui plaisante, qui est sérieux ou qui a peur, sauf celui qui est obligé ou forcé de le faire. Et tous ces annulatifs est ce qu'il y a de plus dangereux et de plus fréquent. Et le musulman doit donc y prendre garde et craindre que cela ne l'atteigne. Nous demandons protection à Allah de ce qui encourt sa colère et son dur châtiment. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.